Bon, on joue dessus, là?
Attends, attends.
Hey, qu'est-ce qu'il y a encore?
J'ai pas aligné mon chakra.
Hey, écoute, là, ça fait 15 minutes qu'on attend.
Attends, il faut que j'aligne mon ki avec l'astre du poulet.
Ah ouais?
Bon, ok, je suis prêt, là, j'y vais.
Il était temps.
Agence l'idée, là.
Bravo. Bon, c'est à ton tour, là.
Attends un peu, là.
Qu'est-ce qu'il y a encore?
C'est pas ma idée que j'ai lancée!
Ben voyons, puis après?
Ouais, mais ça vient tout de balancer mon karma interne. Ça va me prendre au moins 8 mois de méditation intensive pour ramener ça.
Ah, maudit têteux, va.
En sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 57.
Ok. Vous allez continuer à jouer. Toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Aujourd'hui, 22 septembre 2008, et c'est votre émission Puissance maximale, magazine hebdomadaire sur le monde ludique et la culture geek. Bien sûr, sur les ondes de CKIA. Vincent Langlois au micro, et je suis en compagnie de François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François. Christian Lacroix.
Oui, allô la gang.
Et également Alexandre Bélanger.
Hey, hey.
Bonjour Alexandre. Alors, premièrement, un tour de table, messieurs. François, de ton côté.
On va faire un petit retour sur le championnat canadien de Go. Hein. C'était la première fois que c'était à Québec. Donc, on va donner la voix aux gens qui ont participé à ce championnat.
Excellent. Bien hâte d'entendre ça. Christian, de quoi vas-tu nous parler?
Ben moi, je vous parle d'une chronique livre et aussi un jeu de cartes à vous montrer.
Super. Et on va commencer tout de suite avec un petit nouveau sur l'équipe de Puissance Maximale, Alexandre Bélanger, qui en même temps peut-être que vous connaissez de nom parce qu'il a une émission également ici à CKIA le mardi soir. C'est bien ça, Alexandre?
Oui, mardi soir à 23h, j'anime Metal Zone en compagnie de Dan de Machine. Et on m'appelle Alex the Operator dans ce contexte métal. Mais ce soir, en ce début de soirée, je viens vous présenter ma chronique pour la première fois, c'est-à-dire une chronique sur la musique de jeux vidéo.
Justement, parlant de musique de jeux vidéo, on va commencer ça.
Oui, ça va tranquillement. Si François arrive à peser sur play.
Ça va de rien, continue.
Oui. Je peux faire un petit fond là, pour le moment.
Ce sera une composition de Rob Hubbard, sûrement l'un des compositeurs les plus prolifiques du Commodore 64. Aujourd'hui, c'est ça justement pour présenter ma chronique en tout premier lieu. On va parler de la musique de Commodore 64. Et la musique de Commodore 64, elle est particulière et unique parce que, premièrement, c'était la première puce électronique dans un appareil dédié aux jeux vidéo qui était réellement consacré à la musique. Donc, c'était le premier système qui avait vraiment sa puce qui permettait de faire jouer de la bonne musique, de la vraie musique.
Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré à écouter du métal par la suite?
Inconsciemment, probablement oui.
Okay. On voit vraiment les racines, là, on l'entend très bien là, présentement.
La violence, hein, sous-jacent.
Wow!
très très sous-jacente. Hein.
Et je crois que ce sont des gens qui s'influençaient les uns les autres. Le Commodore 64, durant les années 80, le Commodore a été connu et apprécié surtout entre 82 et 90. Et ça s'est terminé en 94. Et dans cette période-là, justement, le métal était très fort. Et c'est sûrement des gens qui se sont inspirés les uns les autres dans leur composition et leur passion. Parce que c'était un métier de passionné que de composer des musiques faites pour cette puce-là qui était tout à fait unique. C'était la première fois qu'une puce donnait l'occasion d'avoir plusieurs sons en strates un par-dessus l'autre. Cette puce-là disposait de 3 sons. Et à l'époque, c'était phénoménal. Aujourd'hui, on n'en parle plus.
C'est ça, c'était quand même quelque chose de composer de la musique avec aussi peu. Là. C'était fallait vraiment avoir du talent hein, pour faire de quoi avec ça.
Et justement, comme François dit, c'était très contraignant de travailler avec cette puce-là. Donc, les compositeurs allaient chercher certains effets pour imiter la vraie musique. C'est-à-dire qu'à place des accords, on avait des arpèges, c'est-à-dire des décompositions d'accords en notes. Et ce qui faisait que on entendait presque un accord étant donné que l'arpège était joué rapidement. Un peu comme on peut entendre parfois. Il y a aussi des vibrations, des vibratos imités à travers les sons très électroniques comme vous pouvez entendre présentement. Là.
Donc le fait en fin de compte que le son ait été modifié, que ce soit par la longueur du son, tu parles un peu de raccourcir le son, mais est-ce qu'on l'étendait ou est-ce qu'on l'élargissait pour créer d'autres...
Tout à fait. C'était toujours sur le principe de la wave,
oui.
la vague qui était modulée par rapport avec la puce. Je peux pas te dire vraiment les détails techniques. Déjà, j'en ai dit plusieurs. Bon, tu avais sûrement des élongations parce qu'il y a des pièces qui sont vraiment axées là-dessus sur des grandes mélopées sirupeuses d'effets électroniques. Et c'est à faire attention, c'est à ne pas écouter 24 ou 48 heures d'affilée. Ouais,
on va devenir fou sinon, hein, je pense.
Exactement ce qui m'est arrivé la fin de semaine. Où j'ai. Oui, mais je me suis rétabli depuis.
Mais moi, ça m'impressionne quand même de voir justement que en fin de compte, ces musiques-là, pour notre génération, disons, là, je sais pas si on est de la même génération, peut-être la même génération que les auditeurs, mais de voir que ces chansons-là sont restées dans notre imaginaire. Là. Bon, on parle de la musique de 64 aujourd'hui, mais on peut parler aussi de la musique des Nintendo, du NES à l'époque, là, les chansons de Zelda, les chansons de Mario Bros. Ça tout ça reste dans notre imaginaire.
Ça va venir dans une prochaine
chronique. Oui, j'imagine.
Évidemment. Parce que là, ce n'est qu'un début. On parle vraiment de la préhistoire de la musique de jeux vidéo.
C'est déjà impressionnant.
Et on parle d'impulsion électronique, justement, et de choses qui rentrent dans le cerveau. Et si vous vouliez en découvrir plus ou en posséder vous-même sur votre lecteur MP3 ou sur votre disque dur, sachez que le mot-clé pour ce type de format-là, c'est SID, S-I-D. Et si vous tapez SID dans Google, vous allez trouver... .sid, notons, c'est l'extension du fichier, des fichiers musicaux. Et déjà, vous allez être sur une bonne piste pour aller récupérer toutes les pièces du Commodore 64.
Et est-ce que ça prend un lecteur spécifique, .sid?
Ça va venir, une fois que vous allez trouver des listes, notons, tout ça, c'est fourni gratuitement, c'est libre de droit d'auteur, je crois.
Okay.
Donc, on a le lecteur et on peut même faire des waves après des MP3 et les écouter partout au travail ou à la radio. Ou...
Dans l'autobus.
Dans l'autobus, bien sûr. Bien sûr. Donc, est-ce que j'entends un fade?
Non.
Ça continue.
Une minute encore.
Excellent, merci. Et bon, il y avait aussi des filtres, il y avait aussi toutes sortes de moyens pour aller chercher une variété, une diversité dans les sons qu'il y avait sur le Commodore 64. Il y a même un culte aujourd'hui. Tu sais, on parle là, c'est étrange, c'est impressionnant, mais il y a un culte aujourd'hui. Et ce culte-là s'est répercuté dans quelques groupes de musique rock, metal, dont un qui s'appelle Machina Supremacy, qui utilise des sons SID dans leur musique.
On pourrait dire aussi des sons 8 bits, non?
C'est 8 bits, mais c'est un 8 bits un peu avant Nintendo. C'est un 8 bits d'une autre technologie.
Okay.
On sait que les fabricants ont utilisé le terme 8 bits de toutes sortes de façons, ou 16 bits, ou tout ça. Et aujourd'hui, c'est complètement obsolète comme appellation de puissance. Là.
Okay.
Oui, mais c'était 8 bits. C'est la première technologie 8 bits en matière de jeux vidéo. Pour le Commodore 64.
Je savais qu'il y avait des groupes électro qui réutilisaient cette sauce-là, les sons 8 bits. Je savais pas qu'il y avait aussi des groupes métal qui utilisaient ces sons-là dans leur musique.
J'en connais un. à date. Peut-être deux. Machiné Supremacy.
Machiné, peut-être?
Oui, probablement. Probablement, peut-être. Aussi, peut-être Dragon Force, qui va chercher des choses là, dans le power metal. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Il y a Crystal Castles, que j'ai entendu dans le techno, qui va chercher purement des sons de Commodore. Et avis aux intéressés, il existe des cartes de son dans lesquelles sont intégrées les puces SID. Et il existe aussi un modulaire là, pour la guitare ou de quoi comme ça, ou pas. Vraiment une pédale dédiée, mais celle-là, elle coûte cher. Donc,
si vous voulez mettre des sons MIDI, des sons de 8 bits, des sons de Commodore à votre guitare électrique, c'est possible.
C'est possible de le faire.
Hey, c'est drôle, on entend une reprise de Clockwork Orange présentement en SID. Ça venait d'un des premiers logiciels de démonstration holographique avec des bon, c'était devenu un succès culte par des étudiants à l'époque du Commodore 64. Et ça avait été programmé. Donc je crois que c'est ce qui annonce la fin de ma chronique. Et mais je vais vous revenir très bientôt, probablement. Ben c'est sûr, avec du NES, avec du Super NES, avec du Genesis, du PlayStation, un peu de tout là dans le jeu vidéo. Oui.
Il y avait Castlevania, entre autres.
Castlevania, c'est certain que...
La musique
important.
Moi, je l'écoute là comme ça. Ça s'écoute.
C'est un point important. Probablement qu'il y aura des chroniques dédiées à des jeux en particulier, des jeux particulièrement marquants au niveau de la musique, dont Castlevania, c'est un excellent exemple.
Castlevania, les Zelda. Donc, ce sera le retour de la nostalgie sur Puissance Maximale. Excellent. Ben, merci beaucoup, Alexandre Bélanger, pour ta chronique. Et on t'attend dans les prochaines semaines.
Bien sûr.
François, est-ce qu'on passe en musique?
Oui, on va aller écouter donc une pièce de notre ami français, donc Yannick de Musax. Musax avec un Z et un X, qui va nous balancer une pièce de Arca Astéroïde, donc je crois. Donc, vous êtes toujours sur Puissance Maximale.
Space Channel 5 sort en l'an 2000 sur la dernière console de Sega à avoir vu le jour, la Dreamcast. Le but du jeu est de mémoriser des chorégraphies sur des musiques de genres très variées, et ainsi se débarrasser des envahisseurs.
N'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
Toujours sur les ondes de CKIA. Et on va passer avec une entrevue. François, je te laisse le micro.
Donc, on reçoit ensemble en direct Frédéric Forêt, qui est le fondateur et leader de la compagnie Bastion Studio. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Donc, exactement, là, c'est Bastion Studio, c'est une compagnie qui a Pignon sur rue. Sur le boulevard Charest, et vous travaillez à la fabrication d'un jeu de figurines miniatures. Donc, c'est quoi qui t'a convaincu, là, Frédéric, de te lancer là-dedans, dans cette aventure-là?
Ben, c'est-à-dire que, si on vient un petit peu en arrière, moi, j'étais un ancien d'Ubisoft Montréal. Et puis, quand j'ai quitté Ubisoft...
Ubisoft, on parle de jeux vidéo, là, mais là, tu te lances dans les jeux de figurines miniatures.
Oh, oui, il y a même une petite histoire qui va avec.
Vas-y.
Donc, grosso modo, je cherchais à faire quelque chose, en fait, avec mon frère, puisqu'on a un intérêt commun pour le jeu vidéo, puis tout ça, mais je cherchais quelque chose de différent, à l'extérieur de l'écran, en fait. Hein. Et puis, on est tombé sur les produits Warhammer. Et puis, on a commencé ça, on a essayé tout ça, c'est des produits qui étaient super intéressants, tout ça. Mais moi, j'ai mon background de game designer qui est embarqué là-dedans, puis je voyais des
lacunes dans les règles.
Ben, d'une part, mais surtout un problème fondamental d'accessibilité, en fait. Là. Quand on demande à quelqu'un de lire 300 pages de livre avant de commencer une première partie, ben c'est parce que quelque part, il y avait un problème. Puis l'autre affaire aussi, c'est que Warhammer, ça puise ses ressources, ses racines depuis à peu près 25 ans, là, donc c'est un produit qui est très vieux et qui finalement a peu évolué lors de tout son parcours, là, c'est ça. Ça fait que...
Moi, je dis souvent que Warhammer, c'est comme un loisir d'élite, hein, c'est-à-dire que ça prend beaucoup d'argent, faut que tu achètes beaucoup de figurines, ça coûte très cher, une simple figurine de plomb, ça peut te coûter 10$.
Ah, complètement.
Et puis, en plus, c'est un loisir complètement, là, tu sais... où tu t'impliques là, à 100% puisqu'il faut en plus que tu les peintures et ça demande vraiment beaucoup de temps, donc vraiment un loisir d'élite.
Oui, complètement, puis en fait on parlait d'accessibilité, c'est dans l'accessibilité dans le prix, c'est dans l'accessibilité du hobby, c'est tout plein de trucs. Il y a des produits qui existent aussi dans un marché un petit peu similaire qui s'appelle les Collectible Miniature Games, qui sont pré-peints tout ça, sauf que ça offre pas du tout la même profondeur de jeu, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont vraiment faits pour plaire à une audience beaucoup plus jeune. Donc, il y a une profondeur de gameplay qui est juste pas là. C'est-à-dire qu'on fait des règles qui sont très faciles à comprendre, mais aussi qu'on trouve le fond très rapidement. Puis, c'est vraiment sur ce problème-là qu'on s'est attaqué. Là.
OK. Puis là, est-ce que tu sous-entends Donjon Dragon Mini par hasard?
Ben, Donjon Dragon Mini est un des jeux qui font du CMG. Il y a aussi la compagnie WizKid qui fait HeroClix, qui fait tout plein d'autres produits. Là. Donc, il y a les DC vs. Marvel, il y a les Halo qui a sorti sa ligne, ce genre de choses-là. Mais tout ça, c'est tout du pre-paint qui fait, ben, d'une part, qui est un petit peu moins esthétique, qui est un petit peu moins joli. Puis c'est vraiment pas fait pour faire des grosses batailles, à peu près à 200 à 500 figurines sur le board, qui est en fait tout l'aspect esthétique qui est intéressant de voir, qu'on retrouve pas en jeu vidéo. Là, on arrive là-dedans, puis quand on voit un champ de bataille qui est complètement modélisé, qu'on voit 200 figurines qui se tapent dessus, il y a un côté esthétique là, qui est vraiment intéressant.
En fin de compte, là, si je comprends bien, vous avez évalué les côtés, les points positifs, les points négatifs de bien des jeux, des séries. Et de quelle façon vous êtes arrivé à créer votre propre série?
Ben, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment parler énormément du produit aujourd'hui parce qu'on est encore trop tôt dans le processus.
C'est top secret.
Ben, ce qui arrive aussi, c'est que comme c'est tôt dans le processus, on fait plusieurs prototypes, puis là-dedans, on a une bonne idée de la direction dans laquelle on s'enligne, sauf qu'il y a des choses qui peuvent changer. Ça fait que si on annonce trop tôt, ben, le risque de changer est trop grand, puis il y a des gens qui se plantent.
Mais vous pouvez sûrement présenter au moins l'univers dans lequel va avoir lieu ce jeu.
Oui, ça, on peut en parler un petit peu, là, c'est-à-dire que on vise vraiment un public adulte 19-35, c'est-à-dire que il y a beaucoup de ces produits-là qui aujourd'hui dans le high fantasy sont vraiment guérés sur le 12-15, le 12-17. C'est du high fantasy pur et dur, très dichotomique, donc très blanc et noir, très good and evil, puis tout ça. Puis, quand on a fait nos études de marché, on regarde ça, puis oui, il y a énormément de joueurs 12-15, à peu près dans la même proportion que les 19-35, sauf que la masse de vente est beaucoup plus importante dans le 19-35. Ce qui arrive, si on regarde, il y a une espèce de courbe, là. Puis les gens qui ont 19-35, qui reviennent dans le hobby après des études, après une fois qu'ils ont passé l'étape de la première blonde, tout ça, là. Puis qui ont du temps, qui ont de l'argent, tout ça, là, je dirais pas qu'ils assument leur hobby, mais ils se lancent plus dedans de façon intéressante. Okay. Sauf que toutes les compagnies qui existent dans le traditionnel du médiéval fantastique, là, on parle de Wizard, on parle de Games Workshop, ce genre de choses-là, eux tirent leur niche du public 12-15, donc leurs produits sont faits en fonction de ça, donc ils ont de la difficulté à les faire évoluer, mais là, parce que ça serait...
Frédéric, t'esquive la question, là. T'es ta puissance maximale, là. Tu viens présenter Bastion Studio pour la première fois, là. Il faut que tu dises, il faut que tu fasses une révélation, là. C'est de quel univers que vous allez vous inspirer pour faire votre jeu?
On fait de la...
Est-ce que ça va être de Mad Max, Shadowrun, je sais pas, moi.
Du médiéval fantastique, mais réaliste.
Médiéval fantastique.
Exact. C'est-à-dire que là, on décide d'aller plus dans la branche du historical fantasy, un peu style George Martin, de servitude. Donc, oui, c'est tous ces aspects-là où est-ce que Oui, il y a des éléments de fantasy, mais il y a aussi une grosse recherche qui se fait du côté réaliste pour que ça soit plausible, en fait. On va pas chercher quelque chose de complètement 100% accurate ou ce genre de choses-là, mais il faut que ça se tienne. On va chercher beaucoup plus l'aspect pratique, l'aspect est-ce que ça aurait pu exister plutôt que l'aspect complètement de style ou tout ça. Donc, on veut quelque chose qui a beaucoup de chair autour de l'os, puis on travaille vraiment en fonction de ce public-là d'adultes 19-35.
Donc, quelque chose de très fidèle historiquement, là, quelque chose de très respectueux de quand même de l'histoire.
Mais disons, ouais, c'est ça. Disons, oui, un côté historique, puis oui, on travaille dessus, puis je suis un gros fan d'histoire. Mon dernier projet, j'étais game designer sur Assassin's Creed, donc j'ai beaucoup d'appréciation pour tout ce qui est historique. Mais en même temps, on fait un what if, dans le fond. Qu'est-ce qui se serait passé si? Et puis, donc là, on regarde ça, puis on fait une cosmologie qui se tient, on fait des personnages qui se tiennent.
Ça fait penser un peu à Tannhauser, tu sais, c'est comme un peu s'inspirer de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis, tout ça, là, puis c'est un jeu de figurines miniatures aussi.
Il y a effectivement, le historical fantasy, c'est un setting qui existe quand même depuis assez longtemps, mais il y a rien de qui a vraiment percé au niveau commercial. Il va y avoir des petits trucs à gauche, à droite. Oui, en ce moment, c'est un petit peu marginal, puis on essaie vraiment de pousser ça au même titre que d'autres sous-branches du fantastique qui ont aussi bien percé, par exemple, le steampunk. Steampunk, c'est une sous-branche de fantastique, mais qui aujourd'hui a assez de following pour vraiment être une avenue commerciale viable.
Au niveau de l'entreprise, basée à Québec, j'imagine?
Exact, on est sur Charest.
Beaucoup d'employés, est-ce que ça commence à grossir?
Présentement, on est 9. On devrait être 11 d'ici octobre, puis si tout va bien, on devrait être 20 d'ici l'an prochain.
Là. Super.
En fin on compte, voit que c'est sérieux, hein?
Oui, quand même.
Quand on emploie plusieurs employés comme ça, là. Puis dis-moi, c'est ça, c'est vraiment un jeu de figurines, mais je pense qu'il va y avoir un lien aussi sur l'informatique, non?
C'est là qu'on ne peut plus en parler.
OK, parce que de temps en temps, il y a justement un lien comme ça là sur l'informatique. On rentre ses victoires et tout ça, puis c'est compilé. Et puis on peut comme se battre à travers le monde, si vous voulez, donc dans ce jeu-là. Mais sinon, peut-être que vous pouvez parler du matériel qui va être fabriqué, les figurines. Ça va être du plastique?
Oui, effectivement, ça va être des figurines en plastique. C'est-à-dire que, d'une part, on en regardait tout l'aspect... prépeint, puis on s'est dit que souvent il y a des gens qui vont regarder du prépeint, puis parce que la qualité du plastique est moins intéressante, puis le coût est trop élevé, on n'est pas capable de faire des grosses armées comme ce qu'on voulait faire. Donc on est vraiment allé vers le plastique un petit peu à la Warhammer, sauf qu'aujourd'hui il y a tout plein de méthodes qui rendent l'aspect hobby beaucoup plus facile. C'est-à-dire que c'est fait avec des clips, c'est fait avec des trucs qui fait que rapidement on peut assembler une armée puis on peut jouer en non-peint, en fait, là. Puis tu vas quand même avoir un aspect esthétique super important, super intéressant.
OK, c'est chouette. Ben écoute, Frédéric Forêt, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ça. On va suivre ça avec attention. Puis je pense que le jeu va sortir, là, vous allez annoncer officiellement en mars.
Exact, là, c'est-à-dire que les premiers détails qu'on va être capable de parler plus du produit, ça va être autour de mars. Il y a une grosse conférence qui s'appelle le Gamma, où est-ce que là, c'est tout ce qui est retailer puis distributeur. Ouais. Puis après ça, on travaille très fort pour une sortie Q4 2009.
Ah, juste une dernière question, c'est à quelle échelle?
Ça va être de l'échelle type Warhammer, c'est-à-dire du 32 mm qui aujourd'hui c'est un petit peu triché, là, c'est-à-dire que de la façon dont ça... Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est pas mal le même size que les produits qui existent en ce moment.
Excellent, merci beaucoup Frédéric Forêt.
Ben, au plaisir.
Bastion Studio, merci beaucoup. Donc, on va suivre ça. Puis, écoute, avant de partir, j'aimerais ça que tu nous fasses une promesse. C'est toujours plus facile quand on a un micro puis que c'est en direct de faire des promesses, de demander aux gens de faire des promesses. C'est qu'on soit informé, Puissance Maximale soit informé du lancement avant tous les autres, n'est-ce pas? Et que tu puisses venir pour nous en parler juste avant la sortie du jeu.
On peut peut-être s'organiser.
Excellent, on va s'arranger.
Merci beaucoup. Sinon, ben, on va écouter une pièce.
D'accord, oui, on y va.
Donc, ça va être... qu'est-ce que ça va être? Alors, ça va être une pièce de Jason Cox qui a repris des pièces de Mario Bros, tout simplement. Alors, ça va être End Credit, la tune de End Credit. Thank you.
Quel beau thème!
Hey! Salut tout le monde!
Eh oui, quand on entend ça, qui d'autre? C'est bien sûr Christian Lacroix.
Oui, Christian Lacroix. Donc, moi, je vais faire une chronique un peu, là, culture geek, parce que, bon, il y a les jeux, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui entoure les jeux. Puis de plus en plus, donc, les franchises qui sont importantes, hein, je pense, dans les jeux, les univers qui sont développés. Et il y a un paquet de produits en parallèle, dont, évidemment, des livres, entre autres. Il y a des pistes, des trames sonores, évidemment, il y a plein de choses. Mais moi, donc, je vais vous présenter rapidement quelques livres qui ont rapport quand même. Premièrement, les jeux de rôle, hein, moi j'adore les jeux de rôle, vous savez.
T'as apporté un beau bouquin là.
Oui, très beau livre, c'est un ce qu'appellent les Américains un coffee table book, là, c'est un beau livre qu'on appelle, là. Donc il est pas cher, il m'a coûté moins de $30, il n'a pas été traduit par contre à ma connaissance, ça vient de sortir, c'est vraiment là, 2008, c'est dans les nouveautés, c'est Reader's Guide to Salvatore's The Legend of Drizzt. Ouais, c'est pas prononçable ce nom-là.
L'elfe noir.
L'elfe noir.
Le fameux elfe noir. Là,
voilà. Donc, ça fait référence à un personnage archi connu de
l'univers. Pourquoi il est connu? Parce qu'ils ont sorti un paquet de livres sur son histoire.
Oui, c'est ça. Donc, c'est dans Donjons et Dragons, l'univers, les royaumes oubliés. Et c'est pour fêter un anniversaire. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs années. Je pense que ça fait qu'en 88, le premier. Donc, ça fait 20 ans qu'était sorti le premier roman. Alors, pour fêter le 20e anniversaire, ils ont sorti ce beau livre-là. Ils ont refait un paquet d'illustrations, de cartes, tout ça. Il y a une galerie de personnages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la structure de ce livre-là, c'est comme un livre, un source book, qu'on appelle un peu de livre là, pour les jeux de rôle. Sauf que il n'y a pas de règles là-dedans. Vous trouvez pas de statistiques.
C'est juste du background, dans le fond.
Oui, exactement. C'est un livre de background, comme on dit. Et donc, même si vous jouez... Moi, personnellement, j'ai abandonné Donjons et Dragons parce que je trouve que c'est un système un peu trop axé combat, tout ça. Donc, on utilise d'autres systèmes. Mais il reste que Drizzt d'Overden, puis sa gang, tout ça. Il y a des très beaux personnages là-dedans. Mm. Le monde est très bien développé. Alors, ce livre-là, pour moi, c'était parfait. C'est un beau cadeau. Et ça me rappelle aussi, évidemment, il y a un côté nostalgie. Parce que quand j'étais ado, moi, j'avais lu plusieurs romans, oui. Je pense 6 ou 7. Et puis, regarde, c'était quand même...
Mais il y aura des images aussi là-dedans.
Ah, écoute, toutes les pages, c'est de toute beauté.
Ça, c'est important, les images.
Ben oui. Puis justement, c'est vraiment le genre de livre là, qu'on se plaît à regarder, simplement tourner les pages, c'est hallucinant. Il y a évidemment du texte aussi, mais c'est surtout un livre d'images, justement, d'ailleurs. Mmh. Avec quand même des belles présentations. Vous avez une cartographie, l'histoire, tout est là vraiment dans l'univers. Et ça peut servir, l'intérêt pour les jeux, c'est que justement, vous pouvez vous en servir, il y a des cartes, donc, pour présenter à vos joueurs. Donc, vous avez Baldur's Gate, par exemple, justement, les jeux, vous vous rappelez les jeux.
Oui.
Le fameux jeu vidéo. Toutes les autres villes sont là, en assez bon détail, puis c'est vraiment de toute beauté.
Donc, en fin de compte, dans le livre, il y a des villes, il y a des personnages, mais il n'y a pas vraiment, comme vous disiez, de statistiques qui fait qu'on sait quel personnage vaut quoi. Donc,
non, ça s'adresse vraiment aux lecteurs, ceux qui avaient aimé la série de romans, ou aux autres là, qui veulent découvrir ça. Mais c'est vraiment intéressant à lire.
Et toi qui avais lu la série de romans, les images que tu vois, est-ce que c'est les mêmes images que tu avais eues dans la tête à l'époque?
Comme je l'imaginais.
Tout à fait. Donc, pas trop déçu.
Ah non, c'est vraiment un beau livre. Si vous aimez aussi l'art de la fantasy médiévale fantastique, hein, sur Internet, il y a beaucoup d'artistes qui se spécialisent là-dedans, puis c'est très intéressant. Ben, ce livre-là, c'est un très beau livre pour ça. Vous allez retrouver des classiques, des couvertures classiques dans le temps et des nouveaux qui ont été commandés. C'est vraiment de toute beauté. Je vous le recommande.
Je pense que pour mesurer l'impact, la popularité de Drizzt, là, on a juste à aller maintenant sur des jeux comme World of Warcraft ou des jeux de rôle sur Internet, là, puis regarder le nombre de gens qui ont le mot Drizzt dans leur nickname, oui. Dans leur nom, dans leur surnom.
Je vais l'appeler le Drizzt. Son nom de famille, on laisse faire, là, c'est Doherden. Et quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, le gag, c'est que moi, je sais pas si toi, François, t'as joué un peu à Donjons et Dragons à l'époque, ou en tout cas, tout le monde, il y avait toujours un ou deux qui se battaient pour jouer un elfe noir avec deux scimitaires, le même personnage, dans le fond.
Ouais, Drizzt, c'est une star, vraiment. Là.
Ah oui, ça en était gossant. Tout le monde voulait jouer Drizzt, puis c'était... OK, bref, voilà pour Drizzt. Ensuite, on passe à deux autres livres. Je vais les traiter ensemble, c'est parce que c'est le même auteur, c'est le même sujet, donc ça va ensemble. C'est Max Brooks, et ça a sorti en 2003 et 2006, respectivement, et ça a fait...
J'ai déjà vu ça.
Ça s'est rendu d'ailleurs aussi dans le top là, de New York Times bestseller. Okay? Donc ça donc c'est quand même ça a été un bon succès. Le premier c'est The Zombie Survival Guide. Encore une fois en anglais, désolé pour les francophones.
Donc le guide de survie des zombies.
Oui, voilà, c'est
de
vraiment...
survie des zombies ou des survie à l'attaque des zombies.
Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est, ça s'adresse aux humains, n'est-ce pas? Et c'est vraiment fait d'une façon là sérieuse, semi-sérieuse. Mm-hmm. Puis c'est... mais ça donne vraiment des bons trucs pareil. Là. C'est genre porter des vêtements serrés pour pas que, hein, que tu fasses prendre.
Pour pas te faire
poigner. Voilà, coupez-vous les cheveux courts, pour pas qu'ils vous prennent les cheveux. Ça va jusque là.
En fin de compte, le spandex, mais des cheveux courts.
Oui, voilà. Et genre les chiens sont vos amis parce qu'ils vont détecter. En tout cas, donc c'est vraiment drôle, ça va très
et
technique.
Et surtout, soyez grosses et laides parce que les filles, les belles blondes, là, sont, c'est ça.
Et on en a pour combien de pages là-dedans?
Ben justement, il y en a beaucoup, puis ça va à la fin, il y a même un questionnaire.
Au-dessus de 200 pages, ce que je peux 200, voir.
Oui, oui, il y a 270 pages.
De conseils, de trucs.
De conseils. Mais c'est vraiment écrit comme un vrai manuel, avec des petits dessins un peu. C'est vraiment comique, évidemment, il y a un côté très comique sous-jacent à ça. Là. C'est, il y a des cas aussi, des exemples très précis. C'est vraiment très intéressant. Donc, The Zombie Survival Guide. Et le livre qui va avec, qui est sorti en 2006, qui s'est aussi rendu sur le New York Times bestseller, c'est le World War Z, donc une histoire orale de la guerre des zombies. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire un film là-dessus, hein. Okay. Un projet
histoire
de film.
Histoire orale des zombies.
Oui, de la...
Comment qu'elle s'est perpétuée avec le temps de façon orale?
Non, c'est que c'est comme si, que, mettons là, ça se passe, si, c'est comme si dans 5-6 ans, 7-8 ans, il y aurait une guerre, okay, une épidémie de zombies qui arrive, et on réussit, l'humanité in extremis, à repousser n'est-ce pas, l'attaque. Et là, suite à ça, il y a une espèce d'enquête. L'auteur, le narrateur, en fait, fait une enquête et il va voir, il fait autour du monde, il fait un rapport et c'est vraiment pour des entrevues finalement qu'il fait avec des survivants, avec des gens qui étaient impliqués.
Ah ouais.
Ouais. Et bien, mais c'est hyper réaliste et évidemment, comme tout, comme les bons films de zombies, il y a une critique sociale hallucinante là-dedans tout le temps. Ils parlent, mettons, du trafic d'organes chinois. Puis là, ils disent que c'est ça, qu'il y avait des organes infectés des fois. Fait que là, il y en a qui se faisaient transplanter un rein, puis ils viraient zombies. On dit en plein comme ça. Donc, c'était très sournois, mais en même temps, donc, on critique le trafic d'organes.
On critique un peu peut-être aussi la pollution. Je sais pas, souvent, les zombies viennent à cause des déchets radioactifs.
Tout à fait. Puis ça, d'ailleurs, dans les bons films de zombies, on sait jamais pourquoi. Hein. On sait jamais la source de l'infection.
C'est sous-entendu ou c'est louche.
Voilà, c'est comme c'est tu flou. Dis souvent, mais c'est ça a toujours rapport au péché de l'homme, de la société. C'est la surconsommation, la vacuité. C'est que les zombies, dans le fond, c'est pour dire que, premièrement, on est plus cruel que les zombies, hein, toujours ça, c'est vrai. Les zombies, eux autres, sont comme eux, ils veulent manger, ils veulent. Mais tandis que, là, quand tu regardes l'armée, la façon qui dépèce les zombies.
Souvent, dans les films de zombies, les humains vont s'entre-déchirer hein, pendant qu'ils se font la guerre aux zombies.
Oui, puis comme tu dis, ils vont sacrifier la petite grosse qui court pas vite. Ils vont attirer pour que, pendant qu'ils s'occupent de la bouffée, on peut se sauver. Donc, c'est tout le côté, mais c'est vraiment une lecture passionnante, je vous le recommande.
Fortement. Le vendeur à les zombies, ça pogne, hein, comme on dit.
Oui, il y a beaucoup de jeux de société, de cartes de zombies qui ont sorti. Donc, c'est un thème qui est très, très populaire.
OK, on va prendre une petite pause avec une petite pièce. Et on va revenir à toi, Christian, dans quelques minutes. François, on y va avec?
On va y aller avec une chanteuse de Québec qui s'appelle Paul-André Cassidy. C'est une chanson, c'est une reprise d'une chanson de Bobby Lapointe, donc un chanteur français. Donc, un petit clin d'œil à nos auditeurs français. Bonjour la France, vous êtes à puissance maximale, tout, on mange des tartiflettes.
De Saï.
Par chanson de Saï.
De Schwan.
Moi qui suis esthète.
De Schwan.
Ah, je trouve ça beau.
De Schwan.
Génial, admirable.
De lapin.
Rable de lapin. Moi qui viens de Grèce.
De Schwan.
Je m'appelle Oreste.
De Schwan.
T'as pas bouffé l'os.
Je
débarque à Paris.
De
de veau.
Oh, oh, quel régalo.
Le cheval.
De prendre le métro.
Le cheval.
Quand on connaît pas.
Le cheval.
Assez qu'on s'amuse au.
De bœuf.
Museau de bœuf. Mes enfants, ma foi, sont de vilains grognons. Quand ils pleurent en cœur, j'essaie de les distraire.
Les vaches,
j'en viens à Boudin. Mais les autres aussi sont toujours dans le besoin. Ça ne peut pas être pire.
De chèvres.
Quel est cet aztèque qu'on vient voir filer du haut de la côte dans le précipice
à moto.
Peut-être bien estomac qui vient de me vendre un complet à garrot et un gilet de pied
de poule.
Quelle poule. Je désirais mâchoire, mais tu m'amènes nason, canapé en rotin, et mon cœur refuse.
Mais cigare,
n'étais-je pas la freinière qui fourbue sa fesse? Ça fait rire les groupes, ah comme l'écurie.
Okay.
À vos saucissons, à chanson de saillie, ah je trouve ça beau, car je suis esthète. Place à la chronique de Mathieu Place.
L'actualité avec Mathieu Place. Mathieu, ça prend toujours trois coups avant que tu l'aies, pareil, là, toutes les fois qu'on entend ton générique. Là.
Oui, ben c'est ça, là, c'est l'histoire de ma vie. Là. Il me faut trois fois avant que ça marche. Là.
Oh, mon Dieu, une des révélation un aujourd'hui!
Bon, je vais vous parler d'actualité encore une fois cette semaine. On va parler d'une étude. J'aime bien regarder les études là, sur les jeux vidéo, etc., pour voir si ça corrobore nos préjugés favorables envers les jeux vidéo ou non. Eh bien, encore une fois, messieurs, je suis dans la joie et l'allégresse de vous dire que les jeux ont été défendus encore une fois par une belle étude qui a été menée par Pew Internet and American Life. En fait, ça a été une étude qui a été menée auprès de 1102 Américains entre les âges de 12 et 17 ans pour savoir s'ils étaient des gamers, s'ils étaient des joueurs et c'était quoi l'influence, comment ils jouaient, comment ils vivaient le jeu dans leur vie. Et puis, bon, c'est assez étonnant. On dirait que 99% des jeunes garçons entre 12 et 17 ans se considèrent comme des gamers. 99%. Alors, je sais pas, le 1%, peut-être qu'ils ont juste pas vu la question.
Ils n'ont pas de bras pour jouer.
C'est ça, ils n'ont pas de bras pour jouer. Je sais pas trop, mais ça, je pense que c'est carrément tout le monde, là, tu sais. Dans le cas des filles, bien, c'est étonnant, c'est 94%. Alors, c'est juste 5% de moins. Alors, les petites filles dans mon temps, moi, en fait, là, j'ai 29 ans. Alors, dans mon temps, c'était les Nintendo, dans les années 80, NES. Eh bien, il y avait pas beaucoup de petites filles qui jouaient, hein. Ouais. C'était assez marginal.
C'était l'époque de Barbie et de la petite pouliche, alors.
Ouais, c'est ça. Il y avait d'autres grands succès du côté des jouets, etc.
Mais à 94%, je suis quand même étonné.
Ouais, c'est beaucoup, vraiment, hein, je trouve ça beaucoup.
C'est pour ça que la DS, les petites consoles portables, ont permis le jeu. En fin de compte, c'est les consoles qu'on, que, qui sont dédiés ou destinés aux filles.
Ben oui.
Mais
c'est la Wii aussi, la Wii a vraiment fonctionné. Justement, dans l'étude, on s'est rendu compte que les filles appréciaient beaucoup les jeux qui ont été offerts à cette branche de la population là dans les dernières années. C'est-à-dire les jeux de parce qu'il y a des questions de mode, questions de par exemple la Wii Fit. Ça c'est pour faire de l'exercice, etc. Les filles ont beaucoup accroché à ça. Alors il y a eu quelques grands succès auprès des filles qui ont bien marché.
Puis il y a aussi les jeux sociaux, entre autres les jeux multijoueurs en ligne, etc. De Sims aussi, qui sont sur la vie réelle et l'interaction. C'est ça qui accroche les filles.
Mais ça dépend toujours à quel niveau de joueur on se situe. Là. Je veux dire, les gens qui ont répondu « oui, je suis un joueur », ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des gens qui passent des 2 heures, 3 heures par jour là-dessus. J'imagine, j'ai touché cette semaine.
Mais dans l'étude, il devait avoir quand même des critères, j'imagine.
J'imagine aussi, oui.
Oui, c'est vrai. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que les gens se considéraient eux-mêmes gamers, se considéraient « oh oui, est-ce que vous jouez à des jeux vidéo ?» Oui, non, tout simplement. Parce qu'on en avait parlé il y a quelques mois, savoir si les gens se considéraient comme des joueurs. Et puis, si on compte les cartes, si on compte les démineurs sur l'ordinateur, ça s'élargit de plus en plus. Là. Pas besoin d'être un grand expert de Grand Theft Auto là, pour être un joueur aguerri. Là. Alors, dans les jeux qui sont les plus populaires auprès de cette branche de la population, là, action, aventure, course, puzzle, sport, alors c'est les grands classiques. Et on s'est rendu compte aussi que les jeux étaient beaucoup plus sociaux qu'on le pensait. Alors, le grand préjugé du joueur qui est tout seul dans son sous-sol en train de jouer à des jeux violents et puis no life, etc. Eh bien, c'est en train de se transformer déjà. Évidemment, les joueurs jouent ensemble à des jeux vidéo dans la même pièce, mais là, il y a une nouvelle réalité, c'est les jeux en ligne. Alors là, les jeux en ligne sont vraiment très populaires parce que, ça ajoute tellement de richesse à une expérience de jeu. Il y a les chatrooms qui sont greffés à ça. Bon, moi, j'ai une jeune adolescente qui habite chez nous. En fait, c'est la sœur de ma compagne et elle est toujours sur les chatrooms. Alors, je pense que c'est quelque chose de très commun dans cette génération-là. Alors, justement, les jeux en ligne permettent d'améliorer cette...
Puis aussi, les clans, hein, la formation de clans.
Dans le jeu, c'est très fort.
Puis là, ils font des sites Internet là-dessus, puis ça devient... Ils sont quasiment tatoués, là. Il y en a que c'est ça, là. Parce que l'être humain, l'adolescent surtout, a besoin d'un sentiment d'appartenir à une gang. Alors là, c'est le clan, un tel, les wolves, quelque chose.
Pourquoi pas? Hein, c'est dans le fond, c'est mieux que d'aller taper du monde sur un jeu vidéo que d'aller dans la rue puis taper du monde en réalité. Quelque chose de mieux. Alors, c'est ça. Alors, c'est les deux grandes réalités qui ont été transposées dans cette étude-là, comme quoi... Tous les jeunes de 12 à 17 ans, 99% chez les gars, 94% chez les filles, se considèrent comme des joueurs. Et les jeux sont beaucoup plus sociaux qu'on ne le croyait. C'est positif. Là, nous autres, on le savait déjà à puissance maximale de toute façon. Là. Alors, autre nouvelle dans le merveilleux jeu dans le merveilleux monde des jeux. Vous avez la nouvelle sortie du jeu concernant Star Wars. C'est Star Wars The Force Unleashed. Voilà, c'est ça. J'ai vu des reportages sur Internet à propos de ça, et puis c'est vraiment hallucinant. Là, on utilise vraiment toutes les possibilités des nouvelles technologies. C'est le monde autour est modulable. Les éléments autour peuvent être transformés avec la force.
Tout bouge. C'est incroyable. Moi, je l'ai testé, là, puis c'est vraiment intéressant comme jeu. C'est certain que le démo que j'ai testé, c'est seulement une partie du jeu. Tu découvres ça, c'est fascinant de voir tout ce que tu peux faire, justement, faire bouger les objets, déplacer les gens par la force, utiliser le lightsaber, je m'excuse pour l'anglicisme,
le sabre laser.
C'est quand même assez intéressant, mais en fin de compte, je sais pas si t'as lu certaines critiques et t'as des choses à nous apporter là-dessus, mais...
C'est vrai, les critiques sont plus ou moins bonnes.
Hein. Plus ou moins bonnes. En fait, les critiques que j'avais lues, on disait que, on commençait la partie en jouant Darth Vader, et puis bon, c'était bien le fun de jouer Darth Vader, puis à un moment donné, ça se transformait, on jouait, c'est ça, le méchant, c'est toujours très séduisant, et puis là, ça se transformait, on finissait par jouer l'apprenti de Darth Vader, et puis on dirait que là, ça commençait à être plate, parce qu'on le connaît pas, ce personnage-là, puis Vader,
le démo que j'ai joué, c'est vraiment l'apprenti qu'on joue, puis c'est vraiment impressionnant.
Okay.
Moi, ce que j'avais entendu dire, c'était vraiment que l'histoire a de très gros hauts, Okay. Et également des bas assez profonds. Okay. Donc, l'histoire...
C'est
assez inégal comme histoire. Puis, un petit peu répétitif. C'est une fois que tu as fait déplacer certaines choses, tu as découvert la magie, il ne reste plus grand-chose dans le jeu. Okay. Ça aurait peut-être été un peu plus développé. Ben bon, moi, pour les quelques minutes que j'ai joué sur le démo, j'ai quand même impressionné parce que c'est quand même un beau jeu visuellement. C'est intéressant. Puis justement, de faire bouger des objets puis de les envoyer sur les gens, c'est des choses que tu fais pas dans n'importe quel jeu vidéo.
En plus de l'univers qui pouvait être, justement, qu'on pouvait bouger à volonté, eh bien, il paraît qu'il y avait une autre innovation de ce que j'ai lu, c'est que les personnages ennemis avaient une plus grande intelligence, avaient une plus grande propension à essayer de sauver leur peau. Tu sais, par exemple, quand t'es lent sur le mur, bon, ben, ils essayaient de s'accrocher autour pour essayer de survivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué dans l'essai que tu as fait? En tout cas, ben, il paraît que c'est vraiment quelque chose de nouveau qui est sorti dans le jeu et puis on va pouvoir voir à quoi ça ressemble dans le futur.
Mais je suis d'accord, c'est vrai que oui, c'était quand même assez développé, mais bon, ça doit être meilleur, par exemple, que dans Bad Company que j'avais déjà joué, où justement l'intelligence artificielle des joueurs ou des bonhommes qui se promenaient, c'était pas très très fort.
Bon, en tout cas, on verra dans le futur, là, on fera peut-être un essai de ce jeu-là pour le futur. Juste une petite parenthèse, vous savez que Star Wars, c'est une des franchises dans le top 10 des grandes franchises qui sont les plus lucratives, question jeux vidéo. Là, à ça, on peut ajouter évidemment Mario, j'imagine il y a Splinter Cell, Final Fantasy, exactement. Et puis aussi, ce Star Wars-là va sortir sur beaucoup de plateformes. Hein. C'est pas juste Xbox, PS2, PSP, là, ça va être PS2, PS3, Xbox 360, le PSP, le Apple iPhone et puis le iPod Touch. Alors, on peut s'attendre à ce que justement le iPod et puis le iPhone deviennent une plateforme de jeu classique là, pour les autres jeux dans le futur. Alors, ce sont les grandes nouvelles de cette semaine à suivre pour ce qui est du jeu de Star Wars.
Alors, merci beaucoup, Mathieu Place. Et on a un petit quiz pour les auditeurs.
Oui, est-ce que vous pouvez faire les bargos, s'il vous plaît?
Les bargos?
Donc, si vous appelez et que vous parvenez à prononcer, à appeler le mot maximal, vous gagnerez automatiquement la course des fruits, qui est un jeu de plateau, n'est-ce pas, agricole, la course des fruits. Ça va être gratis, il faut être membre de CKIA. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez devenir membre. Et quel est le numéro que les gens peuvent appeler?
Au 418-529-9026. 418-529-9026.
Mais maximal, est-ce que c'est comme dans puissance maximale ou peut-être comme le maximal?
Allons-y comme dans la puissance, parce que bien sûr.
La, ok, ouais, c'est ça.
529-9026, et pour en attendant, on va écouter une pièce de Esquivel.
Jaune-jaune aussi, écoute, puissance maximale.
Oui, jaune-jaune, qu'on retrouve de temps en temps sur les ondes de puissance maximale. Et oui, et il est de retour. Et on passe à Christian pour une deuxième partie de sa chronique.
Oui, voilà, donc quelques minutes pour vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu en fin de semaine. Donc, je pense que c'est jeudi, ils ont sorti le démo tant attendu de King's Bounty The Legend. Donc, c'est un jeu sur PC qui est basé... Bon, King's Bounty, on se le rappelle peut-être pour ceux qui ont suivi la série Heroes of Might and Magic, qui est une série extrêmement populaire.
Culte.
De jeux partout.
Pratiquement.
Oui, c'est ça. Et donc, King's Bounty, c'est un peu le prototype à l'époque. Ça a sorti il y a à peu près 15 ans, grosso modo. Et donc, une bande de développeurs russes, la compagnie s'appelle 1C, ils ont repris ça. Et ils n'avaient pas fait des jeux très, très fameux. Moi, je suis allé voir un peu leur résumé, leur CV, leur production. Puis je suis allé, ouais, ça augure mal. Mais après, entre autres, les reprises de XCOM, là, ils ont fait plus ordinaire. Mais en tout cas,
puis, j'avais les reprises de XCOM, ouais, effectivement.
C'est très mauvais. Mais en tout cas, j'ai downloadé, là, ça coûte rien, un bon démo, je vous le recommande. Et puis là, j'ai joué à ça, là, puis wow, j'ai retrouvé là, le plaisir. Les graphiques sont superbes, c'est coloré, c'est dynamique, c'est vraiment... Et c'est un mélange, mais il y a des variations au niveau du jeu. C'est plus proche de Diablo, je dirais, puis avec des éléments, mais meilleur que Diablo encore, parce que vous avez des éléments de jeu de rôle. Donc, les quêtes, par exemple, vous pouvez... Il y avait une quête vraiment drôle, là, juste un exemple, là, c'est que là, il y a des plantes carnivores, OK, méchantes, qui sont en train d'attaquer un village. Et puis là, évidemment, le gars du village, le chef, il dit, va tuer la grosse rouge là-bas, là, c'est la maman, là, va se calmer. Fait que là, t'arrives là, tu peux effectivement taper dessus, mais là, tu te mets à parler avec, t'as dit, non, c'est parce que nous, on aime ça, le sol riche, puis il y en a plus de sol riche ici. Fait que tu retournes, puis là, le gars, sol riche, ben peut-être du fertilisant. Fait que tiens, va demander à une telle, elle a une vache de trop. Puis là, okay. Fait que là, tu ramènes la vache pour faire du fertilisant. Et voilà, donc, c'est pour la famille aussi, ce jeu.
Vous voyez, écologiste.
Oui, et donc il y a de l'humour, puis ce qui est drôle, c'est que c'est mal traduit. Les Russes, là, la fameuse tradition, là, c'est comme, là, ça paraît que c'est des Russes, mais en tout cas, mais c'est comique, et il y a de l'humour, je pense que c'est assumé aussi. Là. Donc, vraiment, une réussite. Et donc, on a évacué toute la gestion. Il n'y a plus de capture de ville, gestion de ressources, il manque si ça, qu'est-ce que je développe, des choix, non.
Un des points positifs, si je comprends bien, c'est que c'est mal traduit, c'est ça?
Pas du tout. Non, il ne faut pas exagérer quand même, c'est relativement bien traduit. Okay, mais de temps en temps, il y a un petit glitch qui te rappelle que oh, ça sent, c'est juste drôle. Et avec l'humour qui va avec tout le reste, c'est de temps en temps. Puis des fois, c'est vraiment surprenant. Là, c'est très là, familial. Puis à un moment, il va dire ah, là, tu sais, ça que moi, il va te lâcher un petit.
Un whack un peu plus agressif.
Ouais, puis moderne. Des fois, là, t'es là, okay, c'est vraiment drôle. Mais en tout cas, donc, King's Bounty The Legend, hautement recommandé pour les amateurs de Heroes of Might and Magic, la série, là, c'est à suivre.
Excellent. Merci beaucoup, Christian. On va passer tout de suite à l'agenda de la semaine. On vous rappelle que dans quelques minutes, on se rencontre à l'Abraham Martin, qui est entre la Côte d'Abraham et la rue Saint-Vallier, dans les escaliers, pour une soirée puissance maximale. François, de ton côté?
Sinon, évidemment, tous les vendredis, on peut aller au Grand Dans Nature du Jardin des Maisarets. Donc, ça commence à partir de 7-8 heures environ, amener vos déguisements. La moyenne d'âge est d'environ 14 ans. Sinon, à tous les mardis, il y a les parties de go au Café Aga à partir de 19h. Sinon, à la librairie Donjon, jeudi au vendredi, il y a des jeux de Magic. Le samedi, c'est Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000. Le dimanche, c'est Donjon Dragon Mini. Le mercredi, c'est War Machine. Et sinon, quoi d'autre? Le 27 septembre, est-ce que c'est passé? Non. Le 27 septembre, il y a le Survivor de Midgard. On va d'ailleurs y aller, puissance maximale, supposément. Donc, c'est organisé par Kevin Labrec, un de nos collaborateurs. Donc, un Survivor. Et sinon, ben c'est ça, venez nous rejoindre après l'émission, je vois le vert, on s'en va à l'Abraham Martin!
Oui, c'est ce qui met fin à l'émission de puissance maximale d'aujourd'hui. Et on remercie Frédéric Forêt d'être passé dans nos studios. Également, merci beaucoup Christian Lacroix pour la chronique, et Mathieu Place également. Alexandre Bélanger qui nous a quittés, il va revenir nous voir dans quelques semaines. Et merci à toi également pour la mise en onde, François G. Couillard. Vincent Langlois qui vous dit bonne semaine!
Ludique.
I'm sorry. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night.